France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le coup passa si près, le Premier ministre Sébastien Lecornu échappe de peu à la censure. Les motions déposées par les oppositions rejetées, annonce la présidente de l'Assemblée.
Pour l'adoption, 271. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée.
Yaël Braun-Pivet, nous serons sur place à l'Assemblée dans une minute. Nous analyserons qui a voté quoi et comment va s'écrire la suite. Le budget notamment, celui présenté en début de semaine, prévoit de faire porter l'effort pour un quart sur les retraités. Nous verrons cela. À suivre encore, l'un des symboles d'une Europe sous la menace, c'est le retour du service militaire en Allemagne. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Débat ce matin chez vous.
Oui, pour se renforcer, la Bundeswehr a besoin de 80 000 recrues d'ici 2035. Mais comment y parvenir ? Volontariat, tirage au sort ou service militaire obligatoire ? La méthode divise la coalition.
A tout de suite en direct de Berlin. Nous écouterons également la détresse des proches des deux Français détenus en Iran. Pour la première fois, ils sont arrivés au bout, disent-ils. Et puis les craintes à Nantes, avant deux jours de beuverie étudiante en centre-ville, un marathon.
La dernière fois, on a plein de bars pas adhérents au grand marathon qui se retrouvaient avec des jeunes de partout. Ils n'étaient pas organisés pour accueillir une telle foule. Et c'est là où les choses peuvent commencer à déborder.
Reportage à suivre. À partir de 13h30, la médiatrice de Radio France répond à vos questions sur le choix des invités politiques, sur la parité à l'antenne ou encore sur la nouvelle grille des programmes. 13h50, c'est la France. Marie-Luce Ribot est allée cueillir des cèpes. Elle va nous en raconter le business. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'historienne et humoriste Manon Bril demande Mathilde.
Je la trouve trop forte et en plus, c'est une vraie guerrière, elle, qui est attaquée parce que c'est une femme sur les réseaux, parce qu'elle est grosse, etc. Et donc, c'est une vraie combattante qui lutte et elle m'impressionne de ouf, quoi.
Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
À 18 voix près, Sébastien Lecornu demeure donc Premier ministre. Les deux motions de censure déposées par le Rassemblement National et par la France Insoumise ont été rejetées ce matin. C'est celle des Insoumis qui a recueilli le plus de voix. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Assemblée pour Inter. Le résultat est tombé peu avant midi.
Oui, c'est une courte victoire, mais une victoire quand même pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Les dissidents socialistes n'ont été que 7 et une seule députée de la droite LR a voté la censure, quand 2 communistes et 3 écologistes ont dérogé à la consigne de leur parti. Les socialistes se félicitent de pouvoir désormais aborder la discussion budgétaire avec l'assurance d'une suspension de la réforme des retraites et un non-recours au 49-3. Insoumis et RN entendent, eux, désormais batailler dans l'hémicycle et ils préviennent, c'est là que les masques vont tomber. Sébastien Lecornu est rusé, nous disait à l'instant Laurent Jacobelli, proche de Marine Le Pen. Mais sa suspension de la réforme des retraites est une entourloupe. Le budget ne pourra pas être voté dans les 70 jours impartis par la Constitution et le gouvernement passera par ordonnance, sans vote. Donc, ce que dénonce Mathilde Panot, la présidente des députés insoumis, dans des termes quasi identiques. On se prépare donc à une discussion budgétaire à haute tension et des deux côtés du spectre politique. On en est convaincu. Le gouvernement Lecornu est un gouvernement sur quelques jours, quelques semaines, au mieux quelques mois, avant des élections législatives anticipées.
On va se projeter sur la suite dans une minute, Laurence, mais arrêtons-nous d'abord sur ce qui s'est joué ce matin. Succès pour le chef du gouvernement qui s'est exprimé à la tribune de l'Assemblée nationale, avant le vote donc, et qui a plaidé sa cause devant les députés. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Discours très court, comme à son habitude si je puis dire.
Exactement, moins de 5 minutes, montre en main, défense express du Premier ministre juste après avoir entendu les attaques virulentes de LFI et du RN contre son gouvernement, contre son budget. Mais l'avertissement a été clair pour Sébastien Lecornu, c'est un moment de vérité entre ordre républicain et désordre.
L'histoire en tout cas jugera très durement ces manœuvres politiciennes dans lesquelles on aura confondu au fond la tribune de l'Assemblée nationale avec une tribune publicitaire. L'élection présidentielle viendra. Pour l'instant, ne prenez pas en otage le budget de la nation et le budget de la sécurité sociale. Merci.
Mais il y a quand même, hein, Jérôme, cette image de l'hémicycle, des bancs pleins aux deux extrêmes, des rangs clairs semés au centre, là où se comptent normalement les soutiens du Premier ministre. Alors oui, seules les voix pour la censure sont prises en considération, mais quand même, ça donne l'impression, me confie un député, d'un Premier ministre seul. Cela résonne à minima comme un soutien du bout des lèvres, un soutien qui sera le plus exigeant que vous connaîtrez, a martelé à la tribune Jean-Didier Berger, député LR. Nous ne voterons pas n'importe quoi, a insisté Paul Christophe, le président du groupe Horizon. Avec des amis comme ça, Sébastien Lecornu n'a pas besoin d'ennemis, soufflait perfide un élu de gauche.
Alors, le Premier ministre doit son maintien en poste au vote des députés socialistes qui, ces derniers mois, avaient contribué à faire tomber Michel Barnier puis François Bayrou. Cette fois, leur patron Olivier Faure leur avait donné pour consigne de ne pas censurer. Bonjour Lise Rosveil.
Bonjour.
Ce qui leur a valu un pilonnage en règle de la part des autres groupes.
Oui, des socialistes au milieu du ring, attaqués des deux côtés de l'hémicycle. Marine Le Pen, à la tribune, dénonce un accord de la honte qui se révélera une véritable arnaque.
Cet accord, il est placé sous le signe de la tromperie et de la malhonnêteté. Car rien ne nous dit que cet amendement suspendant la réforme Borne survive à un rejet du PLFSS, à une possible censure du Conseil constitutionnel en tant que cavalier budgétaire, voire à sa disparition en cas de budget par ordonnance.
Cette main tendue du gouvernement n'est qu'un leurre, insiste aussi la France insoumise. Mathilde Panot frappe et tente de rallier les militants socialistes déçus.
Rompez les rangs, ne laissez pas le parti, la direction du parti socialiste vous entraîner dans une alliance avec la Macronie. Il existe un pôle de résistance dans ce pays, celui que nous incarnons à cette heure.
Cette assemblée est hypocrite, se défend le PS qui se targue d'aller chercher des victoires, le député Laurent Baumel à la tribune.
On peut ici ou là ergoter, minorer, dévoiler notre supposée naïveté. Nous, nous sommes fiers d'avoir exercé cette pression, ce rapport de force qui permettra demain à 3,5 millions de personnes de partir plus tôt, si elles le souhaitent, à la retraite.
Vendu, hurle le RN, avant que Laurent Baumel n'ajoute, pour se défendre de toute compromission, un dernier coup de pression au Premier ministre. Cette non-censure, voyez-la comme un sursis.
Les consignes de vote dans les différents groupes ont donc été globalement respectées ce matin, même si certains députés s'en sont affranchis. 7 au Parti Socialiste, on l'a entendu. Chez les Républicains, par exemple, la députée des Alpes-Maritimes, Alexandra Martin, a été la seule à ne pas suivre le message du président de groupe Laurent Wauquiez. Elle a voté la censure.
J'ai voulu faire ce vote aujourd'hui pour marquer la nécessité de sortir de ce blocage par un retour aux urnes. J'ai voulu aussi marquer mon désaccord face à un budget aux mains du Parti Socialiste avec des hausses d'impôts pour tout le monde et la suspension de la réforme des retraites, pour moi, est encore le cas le plus grave et le signal d'une lâcheté politique parce que c'est calamiteux pour nos finances et on sacrifie les actifs et les jeunes.
À gauche, situation inverse chez les Verts. Le parti avait décidé de censurer, mais la députée du groupe Delphine Bateau, élue des Deux-Sèvres, elle, n'a pas voulu renverser Sébastien Lecornu.
La France ne peut pas se permettre une deuxième année de suite de ne pas avoir de budget avant le 31 décembre, que les conséquences seraient trop lourdes pour les acquis sociaux, pour notre économie. C'est un vote sur la stabilité du pays et sur le refus d'une dissolution qui provoquerait certainement l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Je crois que les écologistes aujourd'hui doivent incarner une ambition à gouverner, donc un sens des responsabilités, et qu'il faut que les écologistes et le groupe écologiste s'émancipent de la pression de la France insoumise.
À noter parmi les députés favorables ce matin à la chute du gouvernement, 5 députés socialistes d'outre-mer. Jérôme Val, on vous retrouve en direct de l'Assemblée pour parler de la suite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, notamment pour la suspension de la réforme des retraites? Sébastien Lecornu l'a annoncé, mais c'est pas encore fait.
Oui, il y aura d'abord les discussions sur le budget en fin de semaine prochaine et puis celle sur le budget de la sécurité sociale début novembre avec, comme l'a indiqué le Premier ministre hier, un amendement pour évoquer la réforme des retraites. Mais il y a 2 écueils maintenant. 1, il faudra trouver un compromis sur un texte qui puisse satisfaire une majorité, grosso modo des socialistes jusqu'au LR. Autant dire que l'accord est loin d'être gagné. Et puis 2, il y a un problème de délai concrètement. Il ne resterait que 50 jours au Parlement pour débattre de ce budget de la sécurité sociale afin de tenir le calendrier. 50 jours sans recours au 49-3 pour voter le texte comme l'a promis Sébastien Lecornu. Délai intenable aux yeux de beaucoup, d'autant qu'au moindre flou, au moindre désaccord profond, la menace d'une motion de censure qui cette fois pourrait réussir à faire chuter le gouvernement va revenir très vite.
Merci à tous, merci à notre équipe à l'Assemblée nationale, Jérôme Val, Lise Roseveille, Laurence Perron avec les moyens techniques de Selim Guerribi. Le gouvernement peut donc, on l'a compris, avancer sur son projet de budget à l'Assemblée nationale à partir de lundi avec... Parmi les inflexions notables, la mise à contribution des retraités. Leurs pensions vont être gelées, quelle que soit l'inflation, et leur abattement fiscal de 10% remis en cause. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Quelles sont les économies attendues ?
Eh bien, sortons la calculatrice. Le gel envisagé des pensions de retraite, c'est 3,7 milliards d'euros d'économies selon les calculs de l'OFCE. La refonte de l'abattement fiscal dont vous parliez, 800 millions. Le gel du barème de l'impôt sur le revenu leur coûtera 400 millions. On est donc déjà à 5 milliards d'efforts sur la seule population des retraités, sur les 30 milliards visés au total, et cela sans compter le doublement des franchises médicales qui pèsera aussi sur leur budget. Ça fait beaucoup, on l'a vu l'an dernier, le sujet est très sensible, mais rappelons que 70% de ces classes d'âge sont propriétaires, souvent avec des emprunts remboursés, que les pensions ont plus augmenté proportionnellement que les salaires des actifs ces dernières années, et que leur niveau d'épargne est important. Voilà pour les arguments qui plaident en faveur de cette mise à contribution. D'un autre côté, de nombreux retraités vivent avec de toutes petites pensions. Pour tout cela, le gel des pensions ne sera pas du tout indolore. Alors, peuvent-ils être épargnés en dessous d'un certain niveau de pension de retraite ? Le débat va forcément ressurgir.
Oui, ça reste ouvert.
Tout à fait. Dans les discussions à l'Assemblée, c'est certain. On apprend aujourd'hui d'ailleurs que la CGT appelle à une journée d'action sur ce sujet. Ce sera le 6 novembre prochain.
Explication Claire Chaudière. Parmi les autres mesures prévues dans ces budgets de l'État ou de la sécurité sociale, on trouvait dans le désordre une taxe sur les petits colis, nous vous en avons parlé hier ici même, les aides MaPrimeRénov' diminuées, une taxe sur les produits de vapotage, ou encore une contribution patronale de 8% sur les tickets restaurants et les chèques vacances. Ça donne un peu l'impression d'une addition de petites mesures. Écoutez l'analyse de Frédéric Farah, il est économiste, professeur à l'université Paris 2 à Sas.
La philosophie générale, c'est d'essayer de rentrer dans ces règles budgétaires ou de faire en sorte que le dérapage soit contrôlé. Donc, évidemment, dans ce moment-là, c'est en avant les fonds de tiroir et le moindre million trouvable est toujours bon à prendre, même si ça peut paraître à la fin dérisoire par rapport au montant de la dette ou au montant des déficits. Puisque, gardons bien à l'esprit, les dépenses publiques françaises sont des dépenses sociales, les dépenses sociales majoritaires, c'est retraite et maladie. Donc, si vous n'agissez pas essentiellement sur ce levier où il y a le plus gros morceau, vous allez aller regarder à droite, à gauche, 500 millions que vous pouvez attraper là, 1 million que vous pouvez attraper par là-bas. Et comme c'est un gouvernement fragile, il se dit, si je commence à ouvrir des sujets trop abrasifs, ça va mal finir. Donc, il vaut mieux aller dans des choses qui pourraient susciter du conflit, mais qui restent quand même mineures.
L'économiste Frédéric Farah au téléphone de Luc Chemla.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Face à la menace russe, l'Allemagne veut davantage de soldats. Son armée en compte 180 000 aujourd'hui, objectif 260 000 dans 10 ans. Avec un outil, le retour du service militaire non obligatoire. Mais que se passera-t-il si les jeunes Allemands ne sont pas volontaires ? Sébastien Baer, on vous retrouve en direct de Berlin. La question déchire la coalition qui est au pouvoir chez vous et le Parlement allemand en débat aujourd'hui.
Oui, un compromis dont on connaît l'importance ici semble pour l'instant bien loin. Pourtant, les deux partis au pouvoir sont d'accord sur un point. L'armée allemande doit se renforcer, d'accord aussi sur les objectifs. Il faut 80 000 soldats supplémentaires d'ici 2035. Mais comment recruter alors qu'il y a déjà pénurie de personnel ? Le service militaire obligatoire a été aboli ici en 2011. Difficile de le rétablir car casernes et instructeurs manqueraient pour faire face à l'afflux massif de recrues. Boris Pistorius, le ministre social-démocrate de la Défense, préconise donc de faire appel aux volontaires. Ses partenaires conservateurs y sont favorables, mais ils redoutent que cela ne suffise pas, d'où cette proposition. Procéder à un tirage au sort pour combler le manque. Certains y voient un mécanisme d'ajustement. À l'inverse, le ministre de la Défense juge l'idée pourrie. Il est d'ailleurs rejoint par ceux qui dénoncent une loterie et pointent le risque de recruter des jeunes démotivés. Face à ce grave couac gouvernemental, le président allemand s'est invité ce matin dans le débat, chose assez rare. Il appelle la coalition à s'entendre de toute urgence. Objectif, éviter une crise. crise, comme celle qui a entraîné la chute de l'ex-chancelier Olaf Scholz en fin d'année dernière.
Élément de comparaison, la France compte 200 000 militaires et 40 000 réservistes. Merci Sébastien Baer, notre correspondant à Berlin. Les députés grecs, eux, ont adopté ce matin la possibilité d'une journée de travail longue de 13 heures durant un nombre de jours limité par an, projet de loi dénoncé par les syndicats et par la gauche. Il y a eu l'espoir il y a quelques jours après la libération par les Iraniens de Lennart Monterlo, ce franco-allemand qui était détenu depuis le printemps en Iran. Mais depuis, les proches de Jacques Paris et Cécile Kohler sont retombés dans l'angoisse, d'autant que les nouvelles en provenance de Téhéran sont mauvaises. Les deux Français y sont détenus depuis 3 ans. Ils ont été lourdement condamnés avant-hier. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Ils tenaient en compagnie de leurs avocats une conférence de presse ce matin à Paris. Vous l'avez suivi. Les deux otages se disent à bout, Nathanaël.
Ah oui, c'est un véritable appel à l'aide qu'ont délivré les avocats et familles de Cécile Kohler et Jacques Paris. La fille de Jacques Paris rapporte les paroles de son père à qui elle a parlé cette semaine pendant 8 minutes.
Mon père est à nouveau à l'isolement depuis 116 jours. Aujourd'hui, je me fais la porte-parole de son épuisement. Mon père m'a dit, je sais, je te le dis, parce que c'est la réalité. Je regarde la mort en face.
Voilà, il faut dire que les conditions de détention des deux Français se sont encore dégradées. On ne sait plus où ils sont enfermés, mais on sait que Jacques Paris est à l'isolement, que les deux Français sont dans des cellules éclairées 24 heures sur 24 et qu'ils n'ont même pas de douche. Les familles appellent à l'aide, elles le disent haut et fort. Elles ne reconnaissent pas les condamnations à 20 ans et 17 ans de prison qui ont été annoncées cette semaine. Ce n'est pas la justice, explique leur avocate Shirine Ardakani.
En l'absence de notification officielle et en l'absence d'accès à un avocat indépendant, eh bien nul de notre côté aujourd'hui est en capacité de dire eh bien que ces peines, en réalité, ont été prononcées et par qui et dans quelles conditions. Qu'évidemment que toute cette procédure-là est une procédure fallacieuse, c'est une farce, c'est une comédie.
En conséquence donc, les autorités françaises doivent mettre tous les moyens possibles pour accélérer leur libération. C'est vital, une question de jour.
Nathanaël Charbonnier en direct avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Le mouvement islamiste Hamas n'a toujours pas remis aux Israéliens les dépouilles des otages morts en captivité. Seuls 9 ont été remis sur les 28 qu'il détient. Le délai prévu par le cessez-le-feu a expiré lundi matin. Nous sommes déterminés à obtenir le retour de tous les otages, a dit ce matin le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'était lors de la commémoration officielle en Israël du 2e anniversaire de l'attaque du 7 octobre. Le plus souvent, un président ne dit pas cela. Après avoir frappé en mer et dans les eaux internationales des Vénézuéliens qui étaient présentés comme des narcotrafiquants, Donald Trump a affirmé la nuit dernière qu'il pourrait y avoir désormais des frappes au sol, sur le territoire du Venezuela, ce pays du nord de l'Amérique latine, situé au bord de la mer des Caraïbes. Et le journal New York Times assure même que Trump aurait secrètement autorisé la CIA à mener des opérations clandestines contre le gouvernement du président Maduro. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
La lutte contre le narcotrafic, d'accord, mais il y a aussi des raisons politiques.
Oui, parce que le narcotrafic, hein, c'est un peu un prétexte, l'arbre qui cache la forêt, en fait. Nicolas Maduro est arrivé au pouvoir en 2013, après des élections, on se souvient, très très contestées, corruption, répression. C'est vraiment un quasi-paria sur la scène internationale, un ennemi pour Donald Trump qui a reconnu son opposant Juan Guaido comme président par intérim en 2019. Mais le Venezuela, c'est surtout la plus grande réserve prouvée de pétrole au monde. Or, les sanctions mises en place par les États-Unis bloquent l'accès à ces ressources pour les compagnies américaines et un changement de régime permettrait effectivement de rouvrir le marché aux intérêts de Washington.
Car pendant ce temps, Claude, la Chine et la Russie en ont profité pour s'implanter.
Oui, Pékin a prêté plus de 60 milliards de dollars en 20 ans à Caracas en échange de pétrole et investit également dans les infrastructures. Et Moscou exploite également le pétrole et soutient militairement Nicolas Maduro en armes. La milice Wagner a aussi été repérée à Caracas il y a 2 ans. Le pays traverse une crise vertigineuse. L'économie, quasiment totalement dépendante du pétrole, s'est effondrée. Pauvreté massive. Plus de 7 millions de personnes ont fui, notamment vers la Colombie. Et Donald Trump le sait, Nicolas Maduro ne tient que grâce à l'armée, à la répression et au soutien de Pékin et Moscou. ces deux puissances dont il veut contrer l'influence aux portes des États-Unis.
Décryptage signé Claude Guibal. Quant au Mexique, des bâtiments judiciaires de la ville frontière de Tijuana ont été attaqués ce matin avec des drones. On sait que le crime organisé est très présent dans cette ville. En septembre, des véhicules garés dans les installations du procureur de la ville avaient été attaqués avec des cocktails Molotov. Des mois, voire des années à attendre une réponse pour un titre de séjour. Voilà la situation que vivent des milliers de sans-papiers dans notre pays. Situation qui se dégrade. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Des rassemblements étaient organisés ce matin un peu partout en France. Marseille, Narbonne, Figeac, Lille ou encore Paris où vous vous êtes rendu. C'était devant la préfecture de police. C'est là que s'effectuent les demandes de titre de séjour.
La file d'attente remonte tout le long du bâtiment de la préfecture de police. Une centaine de personnes à peu près dedans. Rifa Dohan, arrivé du Bangladesh en France il y a 8 ans et cuisinier dans un restaurant italien.
J'ai fait une demande de titre de séjour. Ça fait un an et demi que j'attends, juste pour mon premier rendez-vous. Regardez devant, il y a beaucoup, beaucoup de monde. La préfecture est trop lente.
Justement, ces temps d'attente se rallongent, selon la CIMADE, réunie avec une file d'attente symbolique devant cette préfecture de police. Nadine, bénévole, dénonce des prises de rendez-vous en ligne avec trop peu de dates.
On est chez les fous. Et ça s'aggrave. Tous les accès aux préfectures maintenant ne se font que par le biais de l'informatique, d'Internet. C'est un mur, c'est un blocos. Les préfectures sont fermées. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Aller dans la rue et faire savoir qu'on n'est pas content.
Cette ancienne avocate y voit une tentative de décourager les demandeurs d'un titre de séjour, dénoncée par la voix de la coprésidente de la CIMADE Île-de-France, Michèle Boumendil.
C'est des projets idéologiques. À partir du moment où on a des ministres qui se succèdent et qui annoncent qu'aujourd'hui, ce qu'ils vont faire, c'est lutter contre l'immigration, bien évidemment, des ordres sont donnés aux préfectures pour faire en sorte que ces personnes ne soient pas régularisées, que les temps d'attente se prolongent.
L'association demande une meilleure prise en charge de ces demandes et surtout la régularisation de toutes les personnes sans papier actuellement en France.
Mathieu Bonnour, le rappeur Booba est en garde à vue à Paris, entendu par les policiers dans le cadre d'une enquête pour harcèlement. C'est le chanteur Gims qui l'accuse, ainsi que sa compagne. Ils reprochent tous deux à Booba de s'en prendre à eux depuis 6 ans, attaques en ligne, notamment sur leur physique, disent-ils. Un cold case vieux de 10 ans vient d'être résolu. C'était le 12 juillet 2015, le corps d'une femme de 89 ans retrouvée inerte dans une résidence pour personnes âgées. Nous sommes à La Ferté-Gaucher, département de Seine-et-Marne. À l'époque, les analyses du corps laissaient présumer un meurtre ainsi qu'un viol. Eh bien, le procureur de Meaux vient d'annoncer qu'un suspect avait été mis en examen, placé en détention provisoire hier. Il a reconnu les faits. Bonjour Louise Buyens.
Bonjour.
C'est parce qu'il a commis des violences conjugales qu'il a été retrouvé.
Oui, cet homme de 39 ans s'est fait arrêter par la police à Auxerre en mars 2024. Avant ça, il n'était pas connu de la justice, sauf pour des délits routiers. Pendant sa garde à vue, son ADN est prélevé et un mois plus tard, il finit par matcher, par donner un résultat via le fichier national des empreintes génétiques avec un ADN prélevé 9 ans plus tôt sur un gilet ensanglanté, celui qui avait été retrouvé à côté de la victime. Une histoire qui en rappelle une autre, celle de Pascal Lafolie, confondu 27 ans après avoir tué une lycéenne en 1994 dans l'Aisne. Son procès a eu lieu il y a 3 semaines. Là aussi, son ADN a permis de le retrouver. Là aussi, il a été prélevé suite à un signalement pour violence conjugale. Dans l'affaire de l'octogénaire, pendant son interrogatoire, le suspect a avoué le meurtre, mais ses motivations sont confuses. Il a d'abord parlé d'un vol d'argent avant d'expliquer qu'il voulait commettre un viol. Devant le juge hier, le suspect a exprimé ses regrets et s'est dit soulagé d'avoir dit la vérité.
Précision Louise Buyens. À Nantes, la municipalité est sur les dents avant 2 soirées qu'elle estime à risque de baraton, des tournées, des bars géantes organisées ce soir et demain soir par une 20aine d'établissements de la ville. 3000 jeunes sont attendus et ces craintes sont partagées par des représentants, des restaurateurs, mais aussi par l'université de Nantes, Leïla Mechaouri.
Une tournée des bars XXL. Un verre acheté, un verre offert. C'est affiché en gros sur le site internet du Grand Baraton où on peut acheter ses billets comme pour un festival. Vidéo de promo à l'appui pour motiver les jeunes troupes avec des images de la première édition à Nantes au mois d'avril.
Il y a eu des débordements.
Gilda Salin, adjoint à la maire de Nantes, déléguée à la ville la nuit.
Peut-être pas de grands événements graves, mais quand même des débordements. Avec des jeunes gens qui étaient sur la voie publique, en état d'ébriété avancé.
Le marathon n'est pas le bienvenu à Nantes. Trop dangereux pour les jeunes, écrivent la mairie, l'université et des représentants des bars et restaurants dans un courrier à l'organisateur. Olivier Dardet, le président de l'UMIH de Loire-Atlantique, est l'un des co-signataires.
La dernière fois, on a plein de bars pas adhérents au grand marathon qui se sont retrouvés avec des jeunes de partout. Ils n'étaient pas organisés pour accueillir une telle foule. Et c'est là où les choses peuvent commencer à déborder.
De son côté, l'organisateur met en avant la présence de secouristes notamment, et d'ajouter que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'incident majeur sur un marathon ou bien de plainte.
On ne va pas attendre qu'il se passe un événement dramatique.
L'adjoint Gilles Dassalin explique que des renforts de police municipale et nationale sont prévus.
Sujet ici Loire-Océan, les fake news autour du climat sont tellement nombreuses que le Haut Conseil pour le climat publie depuis quelques années son rapport annuel, mais en mode version grand public pour que tout le monde puisse comprendre. Ce qu'il a fait à nouveau ce matin, il investit même aujourd'hui les réseaux sociaux. Jean-François Soussana est son président.
Il y a de la désinformation climatique, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise information, voire de la désinformation organisée. C'est l'un des freins à la transition. Cette désinformation, elle peut être promue par certains lobbies ou pays producteurs d'énergie fossile. Elle intervient sur les réseaux sociaux ou dans certains médias traditionnels. Et cela cible des points précis, par exemple les énergies renouvelables. Ça peut être aussi la voiture électrique. Ça peut être des questions sur l'alimentation ou encore le nucléaire. Et tout ceci participe à la polarisation politique du débat. Cela crée aussi des tensions dans la société et cela, de manière plus générale, nous éloigne de la sortie des énergies fossiles. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'une information fiable et rigoureuse qui est basée sur les connaissances scientifiques. Et d'ailleurs, dans notre rapport, nous avons préconisé un plan national de lutte contre la désinformation.
Le Conseil pour le climat qui lancera lundi prochain une série de podcasts accessibles à tous pour tout comprendre sur le climat. Son président était au téléphone de Sandy Dauphin. Un joueur de rugby sanctionné pour avoir insulté Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France, et le capitaine de Montauban, Fred Kersi, qui a écopé hier soir d'un blâme et d'une amende de 3000 euros par la Ligue nationale de rugby. Lors d'une interview en début de saison, il l'avait qualifié de meilleur entraîneur qu'il ait eu, mais aussi de plus grande merde sur le plan humain. Fin de citation. Le respect et la bienséance doivent toujours guider notre sport, écrit la commission de discipline de la Ligue. La langue de Molière, elle est beaucoup plus élégante que cet exemple. Qu'en est-il quand elle passe à la moulinette de l'intelligence artificielle? C'est le projet mené en ce moment par un collectif d'artistes en collaboration avec l'Université de la Sorbonne. Le principe est le suivant: s'appuyer sur des logiciels d'IA pour écrire une pièce dans le style de Molière. Cette pièce sera montée sur scène dans quelques mois. Ce sera à Versailles, Julien Baldacchino.
Faire écrire à la manière d'eux avec l'IA, ce n'est pas nouveau. Mais ici, le but du projet est de l'encadrer par un comité d'experts de Molière. Pierre Fautrel est l'un des membres du collectif Obvious à l'origine du dispositif.
De toute manière, il y a des gens qui recréent à la manière d'eux. Si on a envie de le faire bien, autant le faire jusqu'au bout. Autant le faire avec des experts qui peuvent nous aider. Et de manière générale, je pense que ça démontre aussi une manière de créer avec les algorithmes. Là, on crée à la manière d'eux, mais demain, on pourrait créer autre chose. Si demain, je veux faire du théâtre, en fait, il faut qu'il y ait des experts du théâtre pour nous m'aider.
Et m'a prédit de grands malheurs si mademoiselle venait à épouser Monsieur Merville.
Le logiciel ici est alimenté par toutes les pièces de Molière, mais également par les livres qui constituaient sa bibliothèque ou par les croquis de ses costumes. L'IA joue un rôle d'arbitre dans la démarche, selon Michael Bouffard, qui dirige le théâtre Molière Sorbonne.
L'intelligence artificielle est un filtre, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'a pas de bon goût ni de mauvais goût, elle n'a pas de goût du tout, et elle travaille objectivement avec ce qu'on lui donne. Dans la création, je me rappelle surtout au début, on avait nos petites envies. À un moment donné, on a dit non, là on est en train de tricher. Donc on a reculé, on a détruit ce qu'on a fait pour créer quelque chose qui était vraiment qui vienne de l'IA.
Après les premières représentations, les créateurs espèrent jouer la pièce dans des lieux à visée essentiellement éducative.
Julien Baldacchino, c'est l'un des moments qu'attendent les amoureux du livre en France. La foire du livre de Brive, ce sera à partir du 7 novembre. On a appris ce matin que le prix de la langue française y serait décerné lors de l'inauguration cette année au romancier Jean Echenoz. 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, la médiatrice des antennes de Radio France avec nous. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
De quoi parle-t-on aujourd'hui ?
Eh bien, nous allons parler évidemment de l'actualité avec Philippe Corbet, directeur de l'information de France Inter, et puis de la grille de rentrée avec Laurent Goumard, directeur des programmes de France Inter.
A tout de suite, 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Marie-Luce, est-ce une année à cèpes ?
Eh bien, Jérôme, c'est comme toujours, il y a ceux qui parlent de disette et ceux qui prétendent en cueillir à chaque pas. La vérité, c'est que le cep fait un peu ce qui lui plaît et c'est pour cela qu'on l'aime.
Et vous nous conterez vos aventures en forêt. Et avec vous, Frédéric, une historienne.
Elle est également vidéaste sur Internet en même temps qu'humoriste.
Tout ça ?
Elle s'appelle, oui, beaucoup de choses. Elle s'appelle Manon Bril. Elle est actuellement sur scène avec son spectacle 300 000 ans et avec elle, nous écouterons un titre de la chanteuse Mathilde.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est la nouvelle tendance sur les réseaux, un business en ligne, mais également des émissions de télé-réalité, des sujets de tuto, bref, tout un écosystème numérique. Ce jeudi, zoom sur le retour à la mode de la virginité.
Zoom Zoom Zen, tous les jours de 16h à 18h sur France Inter. Mercedes-Benz.
J'adore le mois d'octobre.
Oh, tu plaisantes. L'été est terminé, les jours raccourcissent.
Ah ouais, mais c'est aussi le retour des Star Days chez Mercedes-Benz.
Ah, les beaux jours reviennent alors.
Du 1er au 31 octobre, prenez la vie côté Star Days et profitez d'offres sur de nombreux modèles, comme le GLC, le GLA ou encore la classe A Star Edition suréquipée. Des 389€ par mois sans apport. Location longue durée 37 mois 45 000 km, si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pensez à covoiturer.
Sa vie a basculé, comme ça. Lucie ne marchera plus jamais. Et moi, je peux rien y faire. Si. J'ai trouvé le moyen de l'aider en désignant APF France Handicap comme bénéficiaire de mon assurance vie. Cette association accompagne et défend les personnes en situation de handicap depuis 90 ans. Pour Lucie et tant d'autres, il est essentiel de se battre pour leur faire une vraie place dans la société.
Demandez la brochure Leg Assurance Vie sur leg.apf-francehandicap.org ou appelez le 01 40 78 69 18.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Élodie Callac.
Bonjour à tous.
C'est une journée ensoleillée, ça c'est le tableau général, mais il y a quand même des nuages sur un tiers nord.
Oui, on les garde, hein, entre les frontières du nord, la région parisienne, la Normandie, il faut à nouveau composer avec ces nuages. Alors, ça n'empêche pas une petite éclaircie ici ou là, il y a un petit peu de vent près de la Manche. Sur les massifs, un peu plus de nuages et parfois une petite averse sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud, sur le sud de la Corse, un orage possible. Partout ailleurs, avantage pour le soleil, quelques grisailles quand même vers le Val-de-Saône cet après-midi et des températures qui ne changent pas beaucoup, petite hausse pour le sud-ouest malgré tout, alors 14 à 19 degrés sur une grande partie nord, jusqu'au massif central et aux Alpes, 20 à 24 de l'Aquitaine à la Méditerranée. Pour demain, on aura un petit peu plus de soleil quand même sur les régions du nord, et puis samedi, très belle journée.
Élodie Callac, Météo France.
France Inter, de 13-14, Jérôme Cadet.
Comme chaque mois, le rendez-vous de la médiatrice des antennes de Radio France, Emmanuelle Davier, avec nous et nos invités aujourd'hui. Philippe Corbet, directeur de l'information de France Inter, et Laurent Goumard, directeur des programmes de France Inter. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Jérôme et bonjour à toutes et à tous.
Emmanuelle, beaucoup de thèmes dans le courrier de ces dernières semaines, dont des questions, on va commencer par ça, sur la présence du Rassemblement National dans la matinale de France Inter.
Oui, la présence de ce parti est jugée répétitive et disproportionnée par rapport aux autres formations politiques et donne le sentiment d'une surreprésentation du RN. Des auditeurs disent avoir l'impression que l'on déroule le tapis rouge au Rassemblement National. D'autres estiment, je cite, que l'on dépasse largement les quotas. Philippe Corbet, est-ce exact ou est-ce un ressenti et comment vérifiez-vous l'équilibre du temps de parole ?
Alors le temps de parole est contrôlé pour toutes les antennes de l'audiovisuel public mais aussi privé. Les chaînes de télévision, les chaînes de radio sont soumises aux mêmes règles, à des règles d'équité du temps de parole qui sont très strictes. 33% du temps de parole doit être réservé à l'exécutif, c'est-à-dire le Premier ministre, les ministres et le Président lorsqu'il parle de politique nationale, et les 67% à l'ensemble des autres partis qui composent le spectre politique. Et il faut diviser ces 67%, ça peut paraître compliqué, suivez-moi, 67% divisé en fonction du nombre, enfin des résultats des dernières législatives. Donc pour faire simple, en gros, le Rassemblement National doit, sur les antennes, recueillir environ un cinquième du temps de parole, un tout petit peu moins. Pour de vous donner un exemple très concret, après partie après partie, on distingue tant de pourcentage pour telle ou telle partie. Dimanche dernier, nous avons invité Marine Tondelier. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, en situation, on était content de l'accueillir dans Questions politiques, la question de la censure, la situation politique, vraiment, on était content de l'accueillir. Une minute du temps de parole de Marine Tondelier ouvre, d'une certaine manière, 6 minutes de temps de parole du Rassemblement national sur l'antenne. Et donc, il faut prendre ça en compte sur 3 mois par trimestre. Et donc, effectivement, les auditeurs n'ont pas tort. Il y a eu une impression de déséquilibre, ou plutôt de rééquilibrage au mois de septembre, puisque le Rassemblement national a peu pris la parole au mois de juillet-août. Et donc, nous avons dû, au mois de septembre, rééquilibrer. Et effectivement, il y a eu une impression pendant une quinzaine de jours de rééquilibrage, mais on va essayer ce trimestre-ci d'une certaine manière d'être plus équilibré sur le trimestre.
Et que répondez-vous à ceux qui estiment qu'inviter souvent le RN au nom du pluralisme revient à normaliser leur discours ?
Alors, nous les invitons parce qu'il faut faire du temps de parole, mais nous invitons aussi, et peut-être d'abord, parce qu'ils font partie du débat public. Ils représentent un gros tiers de l'électorat en France. Si on se fie au sondage d'opinion, même si on est encore loin d'éventuelles échéances, mais s'il y avait des législatives ou une présidentielle, ils peuvent espérer peut-être accéder au pouvoir. Ils font partie du débat public en permanence, enfin en tout cas dans le débat public ces dernières années. Et donc nous les accueillons aussi, et d'abord pour ça, parce qu'ils sont au cœur du débat politique en France. Il y a beaucoup d'auditeurs de France Inter qui votent Rassemblement National, et donc nous les accueillons aussi parce que nous voulons représenter l'ensemble du spectre politique.
J'ajoute qu'il y a aussi beaucoup d'auditeurs de France Inter qui ne comprennent pas que la chaîne donne la parole à des interlocuteurs qui envisagent la privatisation de l'audiovisuel public. Comment percevez-vous ces remarques ?
Alors, la question de la privatisation ou les questions qui concernent l'audiovisuel public font partie du débat public. Ça en fait partie, on peut le constater. Et si nous devions faire une liste d'invités que nous ne pourrions pas inviter parce que nous n'aimons pas ce qu'il dit sur tel ou tel sujet, eh bien nous ne respecterons pas notre rôle qui est de faire état du débat public tel qu'il existe dans le pays.
Hier, Marine Le Pen dans la matinale. Lundi matin, c'était Jean-Luc Mélenchon et nous avons reçu beaucoup de messages d'auditeurs. 70% d'entre eux apportent un soutien total à Benjamin Duhamel, qualifiant, je cite, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon d'odieuse et insupportable. Message d'une auditrice, je suis très choquée par le comportement de Monsieur Mélenchon à l'égard de Benjamin Duhamel. Je voudrais vous dire que je ne comprends pas pourquoi vous le laissez vous parler ainsi. Tout n'est pas excusable et il ne devrait pas avoir de place dans votre émission avec ce comportement. Je fus moi-même une électrice de LFI et je suis de gauche. Et par ses agissements, il ne fait que desservir la cause des gens de gauche. Fin de ce mail. Pourquoi l'invitez-vous ? C'est une question fréquente dans les messages et des auditeurs estiment que si vos intervenants manquent de respect envers les journalistes, ils ne devraient plus être invités. Que pensez-vous d'une telle proposition, Philippe Corbet ?
Mais Jean-Luc Mélenchon a été à 2 reprises 3e de l'élection présidentielle. Il a rassemblé lors de plusieurs élections plus de 1/5 des électeurs en France. Il fait partie du débat public. Il est une personnalité importante. Nous le recevrons à ce titre. Benjamin Duhamel a eu l'occasion de le dire pendant l'entretien. Il pose les questions et parfois les questions sont pertinentes et parfois percutantes. Et Jean-Luc Mélenchon peut répondre et il a eu l'occasion de répondre lundi matin. Effectivement, ça fait partie du rapport entre journalistes et politiques tout à fait normal. Et tant qu'on reste dans les limites de la décence, effectivement, on continue à inviter les gens et Jean-Luc Mélenchon reviendra, je l'espère, bientôt sur France Inter.
On en vient, Emmanuel, maintenant à la question de la parité dans la grande matinale.
Avec ce message d'une auditrice, dans votre matinale, il y a Sonia De Villers, Nora Hammadi, Hélène Philly, mais les éditos politiques et les entretiens stratégiques sont toujours confiés à des hommes. Ce matin a été la goutte d'eau, édito de Patrick Cohen, interview de Gabriel Attal par Benjamin Duhamel, billet d'humeur de Bertrand Chameroy, enfin le journal de 8h avec une voix de femme, donc Hélène Philly, puis le grand entretien avec Nicolas Demorand, re-Benjamin Duhamel avec 2 invités hommes, François-Xavier Bellamy et Boris Vallot. Comment, en 2025, sur une telle radio du service public, peut-on considérer qu'il est possible de se passer de la pensée des femmes ? Fin du message. Et des auditeurs soulèvent également la question de la parité côté invité. Ils estiment que depuis la rentrée, les invités dans la matinale sont majoritairement des hommes. Que répondez-vous à ces remarques ? Alors là encore, réalité ou ressenti, Philippe Corbet ?
La grande matinale sur France Inter depuis la rentrée dure 4 heures, 7 heures, 11 heures. Les deux premières heures sont menées par Nicolas Demorand, les deux heures suivantes par Sonia De Villers. Et elle a eu l'occasion, lorsque nous avons fait une édition spéciale avec la chute du gouvernement Lecornu, de montrer qu'elle était une journaliste qui menait sa tranche avec dextérité. Donc il n'y avait pas de sujet là-dessus. Nora Hammadi remplace un homme, qui était Klaus Askolovitch. Hélène Philippe présente le journal le plus écouté de France. Donc ce ne sont pas des voix qui sont... elles sont au cœur de la grande matinale de France Inter. Sur cette matinale-là, et sur d'autres, effectivement, il y a quelque chose d'insatisfaisant qui est dans le choix des invités. Où là, nous avions invité Gabriel Attal parce qu'il venait, l'ancien Premier ministre, de prendre ses distances de façon spectaculaire avec le Président de la République. Il se trouve que c'est un homme. Nous avions invité, nous voulions un représentant du Parti Socialiste, c'était Boris Vallaud parce qu'il était chef, il est chef du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale. C'est pas, nous n'avons pas choisi que ce soit lui plutôt qu'une femme, mais c'est un fait. Et pour tout vous raconter, nous cherchions un invité LR, nous avons cherché une femme, plusieurs femmes LR ont refusé, et donc c'est pour ça que M. Bellamy était venu. Mais quand je vous ai dit ça, en fait, on y pense tous les jours, et dans les efforts, dans ce qu'on doit faire, on distingue en fait les acteurs, notamment les acteurs politiques, et là, d'une certaine manière, nous sommes tributaires des choix faits par les partis, et par ailleurs, des invités que nous pouvons avoir pour commenter, ou des experts. Par exemple, lorsque nous faisons un plateau sur l'international, moi, je fais en sorte qu'on fasse venir un équilibre homme-femme sur ces sujets-là, ou sur des plateaux politiques, des journalistes politiques femmes. On y pense, on fait des efforts, mais pour ce qui concerne les acteurs de l'actualité, on ne va pas faire venir des femmes simplement parce qu'on fait venir une femme, on fait venir ceux qui sont au cœur de l'actualité.
Et si je peux rajouter un mot, il peut y avoir l'impression d'une journée, il y a aussi les tendances sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois. Dans ce 13-14 par exemple, et je me défie les auditeurs de respecter, depuis plusieurs saisons, la parité stricte est respectée entre les hommes et les femmes sur les invités de la tranche.
Merci pour ces précisions. Bravo. Jérôme. Autre constat des auditeurs, sur le plan éditorial, ils observent une évolution de la chaîne avec, selon eux, une tendance au sensationnel. Une place grandissante accordée aux faits divers et aux micro-trottoirs. Cette évolution est vécue comme un glissement éditorial qu'ils ne comprennent pas. Que vous inspire leur remarque ?
Moi, je n'aime pas le mot fait divers. Je n'ai jamais aimé le mot fait divers. Je crois qu'on y met des choses très diverses. Est-ce que quand on parle des féminicides en France, c'est un fait divers ? Est-ce que lorsqu'on parle des nouvelles techniques d'investigation, comme vous l'avez fait avec le cold case dans le journal, on parle d'un fait divers ? Est-ce que lorsqu'on parle du narcotrafic dans des villes moyennes en France, et on voit et on sait à quel point ça bouleverse la vie, l'équilibre d'une ville dans beaucoup de villes de France aujourd'hui, est-ce que ce sont des faits divers ? Ce sont des choses très différentes les unes des autres. Et donc, oui, nous faisons attention à respecter un équilibre éditorial tous les jours dans chaque conférence de rédaction, mais non, il n'y a pas une masse de faits divers sur l'antenne de France Inter. Je sais, pour lire les messages que vous recevez, Emmanuel, qu'il y a notamment deux interventions qui ont suscité beaucoup de messages. Dans les deux cas, c'était des parents de victimes, à quelques semaines d'écart, que nous avions accueillis. La première fois, c'était des parents d'une adolescente, de Lorraine, qui a été poignardée dans son lycée, et nous nous avions invités pour parler de santé mentale. Quelques semaines plus tard, nous avions accueilli la mère et le frère d'une victime d'un féminicide. La santé mentale, les féminicides, ce sont des sujets importants dans la société française que nous traitons régulièrement. Et c'est vrai que quand nous invitons des sociologues, des spécialistes sur ces sujets-là, peut-être que ça heurte moins l'oreille des auditeurs. Moi, je considère que sur ces sujets qui sont justement très sensibles, il faut aussi entendre parfois, pas tous les jours, mais il faut aussi entendre parfois la voix des victimes ou des proches de victimes.
Alors, précisément, à propos des faits divers, des auditeurs vous posent cette question, Jérôme. Pourquoi ouvrir le journal de 13h avec un ou plusieurs faits divers ?
Philippe a déjà répondu en partie, mais si je remonte un tout petit peu en arrière, j'ai effectivement ouvert le 13-14, il me semble que c'était début septembre, en parlant de cette directrice d'école dans le Cantal, qui était en arrêt et qui s'est donné la mort le jour de la rentrée en raison manifestement du harcèlement qu'elle subissait parce qu'elle était mariée avec une femme. Nous avons été ici dans le 13-14 parmi les premiers à en parler, et le lendemain, nous avons donné la parole à l'un de ses amis qui avait raconté son histoire dans une bande dessinée et qui a témoigné. Il se trouve que ce drame, ensuite, a suscité beaucoup d'émotions chez beaucoup d'enseignants dans l'éducation nationale. Des enseignants ont organisé d'eux-mêmes une minute de silence, et la ministre Elisabeth Borne s'est d'ailleurs exprimée sur ce sujet. Donc ce fait nous parle aussi de l'homophobie dans notre pays. Il a alimenté le débat public et voilà pourquoi nous en avions parlé ce jour-là.
On passe à la situation politique de la France. Beaucoup d'auditeurs jugent cette séquence affligeante. Ils se disent écœurés par l'irresponsabilité de la classe politique actuelle. Philippe Corbet, la rédaction consacre beaucoup de temps à cette actualité qui, évidemment, intéresse des auditeurs, mais qui peut aussi fortement lasser certains. Comment vous trouvez l'équilibre des sujets dans les journaux ?
D'abord, on essaie de faire entendre les voix de la France, les voix au sens large, pas seulement les responsables politiques, pas seulement les commentateurs. Nous avons envoyé dans de nombreuses missions des reporters de France Inter, je pense notamment à Simon Le Baron, à Erwan Chassin, à travers le pays pour raconter ce qui se passait en France. Nous avons les reportages d'ici, des 44 stations locales de Radio France que nous essayons de mettre en valeur tous les jours sur l'antenne, et notamment dans le 13-14 avec Jérôme. Et puis lundi, en début de semaine, nous avons ouvert, fait de la place, poussé les murs pour faire de la place aux auditeurs qui nous appellent nombreux pour pouvoir parler de cette situation, la situation politique. Mais tous les jours, nous faisons attention à respecter un équilibre. Et effectivement, et c'est le cas avec Jérôme dans le 13-14, mais dans toutes les grandes éditions d'information, de ne pas traiter qu'un seul sujet, pas traiter que de la situation politique. On a continué à parler d'international, on a continué à parler de sport, d'environnement, d'éducation, de santé. Mais effectivement, il y a des jours où l'actualité prend beaucoup de place. Mais je crois que c'est aussi ça, faire notre travail, de rendre compte de la situation dans laquelle se trouve le pays.
Emmanuel Davier, nous allons parler maintenant des programmes de France Inter, avec Grand Bien vous fasse, devenu le mag de la vie quotidienne, et avec La Terre au Carré.
Avec nous pour en parler, Laurent Goumard, directeur des programmes de France Inter. On commence avec la nouvelle version de Grand Bien vous fasse, qui semble encore peiner à convaincre une partie du public. Je vous lis le message d'une auditrice. Je suis déçue de la suppression de la moitié de Grand Bien vous fasse, qui était excellente. La durée actuelle du nouveau magazine ne permet plus d'approfondir les thèmes abordés. Pourquoi ce choix, Laurent Goumard, que peut-on répondre aux auditeurs ?
Alors d'abord, je voudrais préciser que le mag de la vie quotidienne, donc le nouveau rendez-vous quotidien d'Aller et Bayer, n'est pas une nouvelle version de Grand Bien vous fasse, mais c'est un autre format qu'on a voulu vraiment travailler pour aborder, on va dire, des sujets véritablement concrets de la vie quotidienne, la santé publique, l'argent, la sexualité, donc des sujets en prise directe avec la vie des auditeurs et des auditrices qui, de fait, sont intégrés dans l'émission. Je vais rappeler rapidement le dispositif, Aller et Bayer, un ou deux experts et les questions-interventions des auditeurs. Et c'est la raison pour laquelle le mag de la vie quotidienne devait faire partie de la grande matinale, donc exposé dans une dynamique de programmation en écho au mag de la vie culturelle de Mathilde Serrel. Je reviens quand même tout de suite sur Grand Bien vous fasse, plus axé, on va dire, sur des questions psychologiques, philosophiques, qui autorisent une prise de recul, des réflexions sur la vie. Donc, les deux émissions ne répondent pas aux mêmes enjeux et c'est pourquoi Grand Bien vous fasse garde son identité et son format chaque vendredi.
Autre émission qui suscite des remarques, La Terre au Carré. Voici un message. Je suis triste que l'émission ait été écourtée d'un quart d'heure, car les chroniques de fin d'émission étaient justes, sincères et utiles en cette époque où l'écologie n'a plus tellement le vent en poupe. Et j'ai été encore plus étonnée que le répondeur disparaisse. Je ne comprends pas cette nouvelle formule. Laurent Goumard, quelle était l'intention éditoriale de ce nouveau format ?
Alors, ça tient à un constat qui tient à la tranche horaire de l'émission. On est entre 14h et 16h, et c'est d'une tranche horaire qu'on a identifiée, et les retours le prouvent hein, d'ailleurs des auditeurs et des auditrices, comme un moment où on a envie qu'on nous raconte des histoires, un temps où le récit peut se déployer. On a donc pensé qu'il fallait redonner un rendez-vous quotidien à l'histoire, c'est le fil de l'histoire de Stéphanie Duncan, plébiscité donc par les auditeurs et les auditrices. Il fallait privilégier encore plus cette dimension avec La Terre au Carré, qui déjà travaille le récit dans son format initial. Et donc, pour une plus grande lisibilité, on a décidé de se concentrer sur le récit et donc de se passer du dernier quart d'heure qui brouillait un peu la réception, un quart d'heure composé de la chronique, du répondeur et d'une intervention média. Mais je voudrais quand même continuer sur cette dimension-là parce que ça ne signifie pas du tout qu'on se détourne de l'écologie. Au contraire, je rappelle quand même que depuis la rentrée, Camille Cronier assure une chronique quotidienne à 6h50, donc bien exposé dans la matinale, ça s'appelle « Debout la Terre », et que d'autre part, l'écologie aujourd'hui est un sujet, on va dire, suffisamment quand même identifié pour qu'il puisse se déployer dans tous les programmes. Je pense par exemple à Zoom Zoom Zen, je pense aussi au rendez-vous de la grande matinale, que ce soit dans justement le magazine de la vie quotidienne, mais aussi dans les journaux. Donc je précise cela juste pour rassurer les auditeurs et auditrices sur notre attention et notre vigilance sur le sujet de l'écologie.
Merci Laurent Goumard, merci à Philippe Corbet également. également de vous avoir répondu aujourd'hui. Emmanuel, si les auditeurs d'Inter ont d'autres remarques,
ils
vous
écrivent. Ils peuvent aller évidemment sur le site de la médiatrice de Radio France pour adresser leur message, pour donner leur avis sur les programmes et sur les journaux d'information.
Et ça se traduira ici même dans quelques semaines, 13h48.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le jeudi, 13h48, la France à table avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest qui nous rejoint. Marie-Luce, vous êtes allée au CEP ce week-end. En avez-vous trouvé ?
Ah ben, j'ai cueilli une coulemelle, aperçu des russules charbonnières et une tonne d'amanite. J'ai vu un sanglier de très très près. Ah. Mais mon rêve de ramener des kilos de cèpes, lui, s'est envolé. J'étais un peu vexée jusqu'à ce qu'un grand cueilleur de ma région dans les Landes me dise qu'à ce jour, il n'en avait trouvé qu'un. Ouf, l'honneur est sauf.
Mais je sais qu'en Dordogne et en Limousin notamment, les récoltes ont été fabuleuses.
Oui, c'est ce que soulignaient mes collègues de Sud-Ouest il y a 15 jours. Après des années de disette, ce département en est envahi. Et cela ne va pas sans conflit. De plus en plus de propriétaires forestiers s'agacent de ces cueilleurs qui pénètrent chez eux et se servent allègrement. C'est pourquoi Emmanuel Chignat, présidente de l'association CEP du Périgord, souhaite limiter l'accès aux forêts privées en obtenant une indication géographique protégée. Un peu curieux pour un produit qui n'en fait qu'à sa guise, poussant quand ça lui chante ou ça lui plaît. Selon elle, il y aurait pourtant des pratiques favorisant la pousse, notamment en perçant des trouées de lumière dans les forêts. On peut y croire, Borgorato, près de Parme, en Italie, a décroché ce label. Les agriculteurs de régions françaises riches en cèpes, comme le Morvan, le Jura, la Sologne et quasiment toute la Nouvelle-Aquitaine, applaudiraient des deux mains. Pour beaucoup, le roi des champignons est un complément de salaire qui peut rapporter en saison l'équivalent d'un SMIC.
C'est quand même un complément qui reste aléatoire.
Oui, parce que le CEP a donc ce pouvoir de nous jouer des tours. Écrivain, éditeur et cueilleur, Éric Audinet en a fait un livre. Pour moi, raconte-t-il, c'est l'objet fétiche, miraculeux. Il porte en lui l'alternance de la pluie et du soleil, l'arrivée de l'automne. Il est ce trésor introuvable qui sait se cacher mieux que tout autre grâce à sa couleur de feuilles mortes. Il est comme une apparition merveilleuse quand on le trouve. Soudain, le cœur bat plus vite. En vérité, plus que le manger, le vrai plaisir est celui de sa quête. Partons d'ailleurs en cuisine justement avec Henri Amestoy, chef de Artzain à Irisarri dans le Pays Basque intérieur, autre bastion du cèpe. J'aime quand son odeur envahit la maison et je suis vraiment étonnée de constater à quel point ces dernières années, il perd de la force en goût et au nez. Il n'a pas tort. Les étés et les automnes, de plus en plus secs, privent les cèpes de toute cette humidité qui monte de la terre et qu'on sent avec tant de plaisir au palais.
Donc le cèpe aurait de moins en moins de goût. Ce qui n'empêche pas Henri Amestoy de les cuisiner, de quelle façon ?
On va les faire de trois façons, selon leur qualité. S'ils sont magnifiques, fermes, il les dépite en carpaccio, verse une huile de noisette et parsème l'assiette de fleurs de sel. C'est simple, c'est pur, c'est bon. Si vos cèpes sont un peu moins frais, sans qu'ils soient trop moches, ils seront délicieux avec votre poulet du dimanche. Faites cuire la volaille pendant 3 quarts d'heure. 10 minutes avant la fin de la cuisson, faites revenir vos morceaux de champignons dans le jus du poulet. C'est extra. Et si vos cèpes sont vraiment abîmés, préparez un flan. Oui, on va faire revenir 1 kilo de cèpes débité en morceaux dans une poêle avec un tout petit peu d'ail, de l'échalote, du persil. Vous mixez le tout avec 4 œufs, un demi-litre de crème liquide avec 35% de matière grasse, 20 centilitres de lait. Rectifiez l'assaisonnement et versez dans des petits moules en aluminium préalablement beurrés. Faites-les cuire au bain-marie à 150 degrés pendant 30 minutes. Dégustez ce flan de cèpes tel quel ou avec une viande rouge. C'est une délicieuse sonnette d'automne.
Marie-Luce Ribaud, merci pour cette invitation à nous rendre en forêt dans les prochains jours. Invitation qui vous tente, j'en suis sûr. Frédéric Pommier, on vous retrouve pour C'est une chanson, mais on va parler d'autre chose avec votre invité du jour. Elle est historienne et humoriste, il s'agit de Manon Bril.
Manon Bril qui joue actuellement son spectacle 300 000 ans à l'Européen à Paris, un spectacle de vulgarisation historique dans lequel elle s'amuse de l'absurdité des comportements humains depuis l'apparition sur Terre de l'Homo sapiens.
C'était il y a longtemps.
C'était il y a très longtemps. Et c'est Révolution, une chanson de Mathilde qu'elle a souhaité que l'on écoute. Une chanson qu'elle a découverte lors d'un concert l'an dernier.
J'avoue que j'ai eu vraiment les poils quand elle a chanté ce morceau et tout, c'était fou. Donc j'ai
en particulier vibrer sur ça, même si elle a chanté plusieurs choses et qu'elle est trop forte et que je l'adore et tout, mais cette chanson, elle me parle beaucoup. C'est des sujets qu'elle affectionne, hein, la place des femmes et la lutte en général, donc les femmes révolutionnaires encore plus, bien sûr. Mais là, du coup, j'avoue, ça réunit des sujets qui m'intéressent, dont j'aime parler, aussi bien dans mon spectacle que sur mes réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'en plus, bah, cette chanson, c'est littéralement une chanson pour se motiver, pour aller faire la révolution, quoi. C'est galvanisant. Moi, j'aime bien la mettre dans mes oreilles avant mon spectacle et tout, pour me booster, par exemple, et tout. Et donc, voilà, je sais pas, c'est pas que les paroles, c'est aussi la musique qui est vibrante. Bref, je la trouve trop forte. Et en plus, c'est une vraie guerrière, elle, qui a subi beaucoup de cyberharcèlement, de choses comme ça et tout, qui est attaquée parce que c'est une femme sur les réseaux, parce qu'elle est grosse, etc. Et donc, c'est une vraie combattante qui lutte et qui lâche rien. Et elle m'impressionne de ouf, quoi.
Sur le deuxième album de Mathilde qui est sorti ce titre, Frédéric.
L'album s'appelle La nuit, le jour. Il est sorti l'an dernier en 2024 et c'est donc tout d'abord pour son texte que Manon Bril aime autant cette chanson-là.
Alors, elle parle de ces révolutionnaires qu'on a sans doute pour beaucoup oubliés. Aujourd'hui, on connaît Olympe de Gouges, mais les autres femmes révolutionnaires, on a oublié leur nom. Elles ont été beaucoup effacées de l'histoire alors qu'elles étaient là et tout. Et donc, dans cette chanson, Mathilde, elle leur rend hommage à elles et pas que littéralement les femmes révolutionnaires de la Révolution française, mais de toutes les femmes en lutte, bien sûr. Mais du coup, il y a des paroles que j'aime beaucoup. Elle dit « Je suis la femme à abattre », elle dit aussi « Habitue-toi ». Cette phrase, je la trouve trop bien. Elle dit à tous ces haters ou aux gens qui veulent diminuer les droits des femmes, tout simplement des femmes et des minorités, habituez-vous, on est là, on va pas parler moins fort, on va pas prendre moins de place et on va pas se diminuer, quoi. Et voilà, c'est comme ça, c'est vous qui baissez les yeux, c'est pas nous, quoi. Ça, c'est très inspirant aussi pour moi qui suis une femme sur internet qui peut parfois aussi subir ce type d'attaque. Ça fait du bien de voir celle qui lâche rien, quoi.
Vous, elle vous met en joie, cette chanson-là ?
Ouais, ouais, elle me met en joie. J'ai pas de connaissances musicales, donc je sais pas parler en termes de tempo ou je sais pas quoi, mais il y a un rythme qui est encourageant. Ça donne envie de marcher vite dans la rue en regardant droit devant soi et voilà, d'aller botter des culs, quoi. Tout simplement.
L'heure est toujours au combat, pour vous ?
Ouais, on peut dire ça, il y a des avancées et c'est super. Mais il y a aussi toujours ce qu'on appelle le backlash, donc le retour de bâton qui suit n'importe quelle avancée sociale pour les droits de n'importe quel type d'humain. Et donc, bah, si on voit ce qui se passe aux États-Unis actuellement, notamment concernant le droit à l'avortement, par exemple, on peut dire que l'heure est plus que jamais au combat. Ou pour les droits et les statuts des personnes trans, voilà quoi. Donc oui, oui, l'heure est au combat, faut rien lâcher, ça c'est sûr.
Et c'est important du coup qu'il y ait des chansons de combat également.
Ben, pour se motiver et pour s'émouvoir de la lutte, je pense que c'est très important.
Est-ce que pour vous, on est ici dans l'hymne féministe ?
Ouais, 100% un hymne féministe. Je sais pas, ça serait peut-être la version féministe de The Eye of the Tiger pour se préparer avant de monter sur le ring, quoi. Et moi, elle me fait cet effet en tout cas. Je l'adore. Ça me fait ça. C'est électrisant, je trouve.
Liberté chérie, j'écris ton nom. Révolution.
Mathilde, Révolution, c'était donc Frédéric, le choix de Manon Bril.
Manon Bril, historienne, humoriste, que vous pouvez retrouver sur la scène de l'Européen à Paris, où elle joue son premier spectacle 300 000 ans, spectacle qu'elle joue également en tournée.
Merci Frédéric, je vous dis à demain, dans quelques minutes, le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan, vous ne manquerez pas à partir de 20h le concert exceptionnel sur Inter du groupe Feu Chatterton, et je sais que vous serez très nombreux demain à notre écoute, car nous retrouverons ici en studio Violette d'Orange, que nous avions accompagnée l'an dernier dans son Vendée Globe et qui viendra nous parler de ses nouvelles aventures.